Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous nous écoutez en podcast. En lançant un média, on se pose toujours la question de la cible, du public visé. Quand on n'est pas un mass-média, qu'on prenait un média destiné à tout le monde, par exemple RFI, l'idée est de s'assurer qu'on va réussir à atteindre un nombre suffisant de lecteurs ou d'abonnés, et que le modèle économique soit tenable sur le court, le moyen et, soyons fous, le long terme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Chica, un magazine français dont la cible est très précise, les filles âgées de 7 à 12 ans. Dans ces pages, pas de poupées ni de roses à outrance, mais des articles qui mettent en avant des femmes dans l'art, l'histoire ou les sciences. En un mot, c'est un magazine féministe pour petites filles. Pour l'Atelier des médias, Léo Caravani a rencontré la journaliste Elisabeth Roman. C'est elle qui a créé Chica, qu'elle qualifie de premier magazine d'empowerment pour les filles de 7 à 12 ans. Première question, qu'est-ce que l'empowerment ?
Alors, empowerment, on peut aussi le traduire par un mot qui vient plus ou moins d'être inventé, qui s'appelle empouvoirment. En fait, l'idée, c'est de devenir ce que l'on doit devenir, ce que l'on veut être, c'est-à-dire sans écouter les injonctions, qu'elles soient familiales, sociétales, scolaires. Donc, par exemple, parmi les injonctions qu'une petite fille peut entendre, ça, il y aura le rose est ta couleur, tu es calme, tu adores faire de la danse classique. Donc, moi, l'idée dans ce magazine, c'est de casser un peu tout ça et de permettre justement à ces filles de s'ouvrir vers plein d'autres choses, des choses qui aujourd'hui leur sont interdites.
Ça peut être porter du bleu, jouer au foot, c'est ce qu'on voit dans le premier numéro.
Exactement, ça peut être aussi bien porter du bleu que jouer au foot, que devenir pompière, que faire des études scientifiques. Donc voilà, on leur explique que tout est possible en se consacrant vraiment à des articles qui parlent de femmes inspirantes d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Par exemple, justement, vous parliez de foot. Dans le numéro 1, on a rencontré Amandine Henry.
Amandine Henry qui est donc la capitaine de l'équipe de France de foot.
Tout à fait, la capitaine de l'équipe de France. Mais qui ne le sait pas en ce moment? Et donc voilà. Et donc l'idée, c'est de leur ouvrir à des choses, à des sujets qui ne sont pas actuellement exploités dans les magazines dits pour filles en fait.
Vous-même, vous travaillez depuis longtemps dans la presse jeunesse, la presse pour enfants. Qu'est-ce qui vous a décidé à créer ce magazine justement pour filles?
Je peux pas vous dire, je me suis réveillée un matin et puis j'ai dit ça y est, je peux pas vous dire quel jour c'est arrivé, mais en fait moi pendant très longtemps j'étais dans ce qu'on appelle la presse non genrée, c'est-à-dire aussi bien pour filles que garçons. J'étais rédactrice chef de Sciences et Vie Découverte, un magazine scientifique qui est censé être non genré, mais au fond finalement j'avais 60% de lecteurs garçons et que 40% de lecteurs filles. Déjà je pense que ça a dû me travailler beaucoup à l'époque de me dire tiens c'est étonnant pourquoi on n'a pas autant de filles que de garçons, et puis je pense que moi aussi j'étais prise dans ce mouvement MeToo, etc., qui a fait que, bah oui, je voyais que plein de médias sortaient pour les femmes, pour les jeunes filles, mais pour les petites filles, il n'y avait rien. Donc, j'ai décidé d'y aller.
Et qu'est-ce que vous retenez quand même de toutes ces années à faire un magazine qui devait s'adresser à tout le monde, mais qui, au final, était plutôt lu par des garçons, dont les garçons s'emparaient plutôt?
Alors, même s'il était plutôt lu par les garçons, comme je vous expliquais, 60% de garçons, 40% de filles, quand même, le pourcentage était assez bon, quand même, hein, au niveau des filles. Mais en même temps, moi, j'essayais de faire en sorte de rentrer les filles. Hein, c'est-à-dire qu'un mois sur deux, on avait une expérience faite par un enfant. Donc, un mois sur deux, c'était une fille qui la faisait. Dans les mascottes, on faisait rentrer les mascottes. Donc, c'est ce qui est la porte d'entrée dans un magazine pour un enfant. On mettait aussi des mascottes filles, etc. Donc, moi, déjà, inconsciemment, j'ai déjà travaillé à ça sur ces magazines non genrés. Mais au fond, finalement, ce qui est assez marrant, puisque le numéro 1 de Chica vient de sortir, beaucoup de filles m'ont envoyé des dessins, m'ont déjà écrit des lettres, etc. Et puis, les parents m'envoient des photos. Et là, on commence à m'envoyer des photos avec des garçons qui lisent Chica. Où les parents me disent bon alors nos lectrices on les appelle des chicas et donc les parents me disent bah voilà regardez mon chico mon chiki il lit aussi Chica. Donc vous voyez finalement en voulant faire quelque chose pour les filles j'ouvre aussi aux garçons, donc c'est plutôt pas mal.
Avant d'en venir justement à ce qu'il y a dans ce premier numéro, vous pouvez juste nous dire pourquoi ce nom Chica ?
Alors, évidemment, quand j'ai créé, j'ai pensé à ce magazine, il fallait que je trouve un nom, comme tout magazine. Et en fait, j'ai cherché comment on disait petite fille dans plein de langues différentes. Et en fait, chica, c'est comme ça qu'on dit petite fille en espagnol. Donc, j'ai francisé l'écriture, hein, puisque ça s'écrit T-C-H-I-K-A. Et puis, en même temps, pour moi, c'était aussi une façon de faire un hommage à Frida Kahlo.
Une fameuse peintre mexicaine qu'on retrouve dans ce premier numéro.
Exactement. Et puis chica, en fait, je trouve que même si on comprend pas que ça veut dire petite fille, que c'est un mot très fort, très dynamique. Je voulais pas quelque chose de doucereux et de gnangnan. Et voilà, c'est à l'image du magazine, c'est quelque chose, même les couleurs du magazine sont très éclatantes. Je voulais pas quelque chose de doucereux. Donc ce mot aussi est symbolise la force qu'ont les petites filles, en fait.
Alors, on vient de dire un dossier sur Frida Kahlo. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ce premier numéro de Chica ?
Alors, dans le numéro de Chica, donc, on trouve un dossier sur Frida Kahlo. Ça nous ouvre aussi au Mexique. Hein. On parle du Mexique, ça nous permet aussi. Parce que l'idée, c'est que ce magazine ne parlera pas que de femmes, mais aura aussi des articles intelligents donc qui vont ouvrir, par exemple, là, sur le pays, sur le Mexique. Un côté un peu géo, mais dirons-nous pour enfants. On raconte l'histoire d'Agnetson Taylor. C'est une institutrice qui, dans les années 1910, a décidé d'être la première personne à franchir les chutes du Niagara. Donc, elle avait 63 ans. Elle a fabriqué un tonneau spécial et elle s'est jetée dans ces chutes qui faisaient à peu près 22 étages d'immeubles. Alors, c'est hyper intéressant, en fait, comme histoire. Et on l'a raconté d'une façon un peu... haletante, voilà. On va aussi déconstruire les stéréotypes. Dans le numéro 1, on va faire ce que finalement peu de magazines font, même je crois quasiment jamais, c'est-à-dire on a écrit un titre qui s'appelle « Le rose, c'est que pour les filles », et en fait, le titre est barré. Donc, c'est la rubrique Infox où on va déconstruire tous ces stéréotypes. Donc, les garçons ne pleurent pas, les filles portent du rose, les filles doivent faire de la danse, etc. Enfin, au fur et à mesure des magazines, on va déconstruire. Il y a aussi beaucoup d'actu, et notamment des actus scientifiques. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est de, par exemple, là, dans une des actus, on parle d'une grenouille qui était la dernière de son espèce qui s'appelait Roméo. Et donc, on cherchait à travers la planète une femelle de cette espèce pour que l'espèce perdure. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, Juliette a été trouvée et que Juliette est dans la main d'une scientifique. Voilà. Moi, c'est important aussi de montrer des femmes qui font des choses, finalement, dans des lieux où on n'a pas l'habitude de les voir. Voilà.
C'est quelque chose que j'ai remarqué effectivement assez rapidement et même dès les premières pages du magazine, c'est qu'il y a beaucoup de vulgarisation scientifique et historique, même pour un magazine jeunesse en général.
Oui, parce que l'idée, c'était... Enfin, moi, j'ai envie de faire un magazine intelligent et multi-options, c'est-à-dire on rencontre, on voit des histoires de femmes, mais on voit aussi des choses qui nourrissent le cerveau, en fait. C'est-à-dire, moi, je souhaitais, à travers ce magazine, qu'on se nourrisse de plein de choses, en fait, voilà, avec cet accent autour des femmes.
J'ai eu l'impression aussi, dans Chica, dans les premières pages, assez rapidement, que le ton est assez positif, ou en tout cas un peu plus positif que ce à quoi on peut s'attendre dans la presse jeunesse traditionnelle.
Plus que positif, en fait. Moi, pour moi, c'est engagé. C'est engagé et en même temps, j'ai à travers plein d'articles dans Chica, je demande à mes lectrices de me parler, de me raconter, de dire, d'être là. J'ai vraiment envie de créer un lien entre elles. C'est-à-dire que, par exemple... sur le premier article, on parle d'une chica d'or qui a inventé une paille en glaçon. Et je leur explique pourquoi, effectivement, les pailles, c'est quand même pas terrible en plastique. Et je leur dis, ben toi, si par exemple, la prochaine fois que tu bois une boisson, montre-moi si tu as une paille ou pas et envoie-moi une photo. Idem pour, fais ton autoportrait comme Frida Kahlo, etc. C'est-à-dire que moi, l'idée, c'est plus que positif, c'est créer vraiment un vrai lien avec mes lectrices. Et d'ailleurs, elles ont déjà été, alors que ça fait quelques jours à peine qu'elles ont le magazine entre les mains, j'ai déjà plein de mails où elles m'envoient plein de choses. Et voilà. Donc oui, plus que explicatif, effectivement, c'est un magazine qui est engagé et qui veut créer un lien avec ses lecteurs, ses lectrices, plus particulièrement. Et donc, en fait, Chica, c'est le magazine des Chicas plus que le mien, au fond. Hein. Voilà.
Et justement, ça, c'est C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi assez rapidement, c'est que dès les 10 premières pages, les lectrices sont invitées plusieurs fois à écrire au magazine, à donner leur avis, leurs idées, en fait à prendre la parole.
Exactement, c'est vraiment hyper important pour moi, ce magazine. J'ai vraiment envie que ce soit le magazine des lectrices, qu'on a appelé des chicas. J'ai envie qu'elles soient à l'intérieur, j'ai envie qu'elles le construisent avec moi. C'est hyper important un magazine en fait. La lecture effectivement peut révolutionner des vies et peut vraiment changer la vie de quelqu'un. Mais dans un magazine, il y a un trait supplémentaire. Parce qu'effectivement, dans un magazine, il revient d'une façon périodique. Et à partir du moment donné où on commence à rentrer en dialogue avec son magazine, il y a quelque chose, une part encore plus... On est encore plus proche, puisqu'un livre, généralement, les auteurs... On leur écrit pas forcément. Un magazine, on écrit à un magazine. Et donc, c'est important pour moi, finalement, ça a l'air un peu présomptueux, mais à travers ce magazine, d'apporter vraiment des changements, peut-être, dans la vie de certaines petites filles. Et du coup, voilà, ce dialogue que j'essaye d'instaurer avec elles, c'est aussi une envie de faire bouger les choses, quoi.
On vient d'entendre Elisabeth Roman, fondatrice du magazine Chica. Le deuxième numéro de ce trimestriel français est paru en septembre. Pour le feuilleter ou vous abonner, rendez-vous sur chica.fr. À la une du dernier numéro, les sorcières, ces femmes puissantes. Si je vous dis super-héros, vous pensez sans doute à Batman, Superman, Spider-Man ou encore Captain America. Bref, que des hommes. Pour faire face à cette hégémonie masculine, un groupe de jeunes femmes françaises a créé Themyscira, un projet en ligne qui veut permettre aux femmes de s'approprier la culture comics. Vous savez, ces bandes dessinées américaines de super-héros. Pour l'atelier des médias, Léo Caravagna a rencontré Marie, une étudiante de 24 ans en histoire de l'art. Elle fait partie du collectif Themyscira qu'elle commence par présenter.
Alors c'est un projet féministe qui a pour but de valoriser les personnages féminins dans les comics et dans la pop culture en général, puisque donc en fait ça part d'un constat tout simple qui est que tous les héros principaux des comics et des films de super-héros, etc., sont à une très grande majorité des hommes. Et donc l'idée c'est que pour que ce soit un espace où les femmes se sentent à l'aise, c'est important qu'il y ait des héroïnes aussi. Et il y en a beaucoup qu'on apprécie, qu'on connaît depuis longtemps. Et l'idée c'est de les mettre en valeur particulièrement et de s'adresser à un public féminin pour que les femmes se sentent plus à l'aise dans ce milieu-là.
Quand tu parles de comics, c'est toute cette culture qu'on voit au cinéma avec ces films de super-héros, Superman, Batman, Captain America, etc.
Oui, on traite. En fait, on essaie de traiter tous les sujets où apparaissent des super-héroïnes. On s'intéresse principalement donc aux comics américains très connus du Marvel Cinematic Universe, de DC, donc qui sont les grandes firmes de comics, mais on s'intéresse aussi aux comics un peu plus indépendants. On s'intéresse à toutes sortes de choses, et par exemple, donc moi j'insiste un petit peu sur Star Wars, Doctor Who et ces choses-là, parce que c'est des créations en fait qui sont initialement à l'écran, en film et en série, et qui sont passées ensuite en comics. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont regarder les films et les séries, mais dès que ça passe en comics, les femmes sont un peu hors-jeu, parce que justement c'est toujours tourné vers les hommes. Et donc nous, notre but, c'est aussi de mettre en avant tout ça, et pas que les plus connus justement. Donc de faire aussi un travail de démocratisation pour mettre en avant dans la culture française, qui est un peu réfractaire aux comics, des choses qui sont peut-être un peu moins connues aussi.
Si moi aujourd'hui par exemple je vais voir Avengers Endgame et je vois un personnage féminin qui m'intéresse dedans, par exemple, je sais pas, Black Widow, je peux aller sur votre site et trouver des recommandations de lecture.
C'est ça. Donc vraiment le cœur du projet, c'est de faire des recommandations pour les lecteurs et lectrices. Sachant que, évidemment, nous, notre but, c'est quand même de s'adresser à un public féminin. Donc, pour que les femmes puissent trouver des héroïnes auxquelles s'identifier, etc. Évidemment, on s'adresse à tout le monde, mais c'est quand même le cœur de notre cible. Donc, on va avoir, par exemple, voilà, un article avec une liste de recommandations sur quel comics existe avec, comme personnage principal, une femme voilée. Ou alors, on va faire une série de recommandations spéciales sur un personnage dont on a vu, par exemple, que le public s'y intéresse sur Twitter. Donc, voilà, Black Widow, on va lister les comics, les différents arcs narratifs dans lesquels elle existe, etc.
Ouais, il y a quelque chose que je me suis dit tout de suite en voyant votre projet, c'est que moi-même, je lis un peu de comics, je ne suis pas un expert, mais enfin, j'en lis un peu, et il y a quelque chose qui m'a frappé tout de suite, c'est un reproche qu'on peut faire à cette culture de la BD américaine, c'est que toutes les femmes sont belles, grandes, minces, et elles ont souvent des représentations de leur anatomie complètement ridicule ou hyper sexualisée. Est-ce que ça, c'est contradictoire avec ce que vous essayez de faire? Comment ça s'articule avec les valeurs que vous défendez?
Dans la mesure où ce sont des personnages féminins qui existent, ils vont apparaître en fait dans notre base de données, de toute manière. Après, il faut voir aussi qu'il y a différentes étapes historiques en fait du développement des comics. On a eu beaucoup de sexisme, de représentations très sexualisées, etc. par le passé. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Je dis pas que c'est terminé, loin de là. Mais on commence, voilà, à avoir quand même beaucoup plus conscience de ces questions-là. Et nous, ce qu'on va faire en particulier, c'est qu'on va d'abord mettre en avant, par exemple, des comics qui sont écrits ou dessinés par des femmes. Puisqu'évidemment, donc, il y a les héroïnes de comics qu'on met en avant, mais aussi les femmes réelles derrière qui sont les créatrices. Donc, évidemment, quand ce sont des femmes qui sont derrière les pinceaux, on peut s'attendre à des représentations un peu moins sexistes, un peu moins sexualisées. Donc, en général, c'est ça qu'on va essayer de mettre en avant. Mais il faut savoir aussi que nous, donc les personnes qui faisons partie de ce projet, on s'est aussi identifié à des personnages qui étaient très stéréotypés, très sexualisés aussi, quand on était plus jeune, dans les films qu'on pouvait voir ou dans les BD qu'on pouvait lire. Et ça n'empêche pas non plus complètement qu'on s'y intéresse. Ça fait pas forcément d'eux des mauvais personnages. Par exemple, Black Widow, justement, dont on parlait, dans les Avengers, elle est quand même très sexualisée à chaque fois. Mais ça n'empêche qu'on peut l'apprécier, on a le droit aussi de trouver ça super cool. Voilà, l'idée c'est que on sorte un peu aussi du regard masculin. Donc ça c'est un terme male gaze qui apparaît beaucoup dans les cultures féministes américaines et puis qu'on a repris aussi en France. C'est l'idée que tout est adressé en fait au regard du mec qui va lire les comics, regarder les films, etc. Et nous justement, en s'adressant d'abord à un auditoire féminin, l'idée c'est aussi de retirer un peu ça de la culture comics.
Découvrez les super-héroïnes et les recommandations de lecture comics pour les filles sur le site temiskira.co. C'est bientôt la fin de cette émission, place à Mondoblog Audio. Le mondoblogueur camerounais Christian Elongué nous parle de bande dessinée, africaine cette fois, avec Afro Comics.
Pour commencer, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes capable de me citer 5 super-héros africains? Si tel n'est pas le cas, eh bien, continuez à écouter cet audio. L'application AfroComics est donc une application qui vous présente des bandes dessinées, des animations et histoires avec des super-héros nés et évoluant en Afrique. Tout le monde connaît les dieux grecs comme Zeus, Athéna, Prométhée, mais personne n'a encore entendu parler de Shango, le dieu de la foudre chez les Yoruba, ou d'Anansi, le dieu de la sagesse au Ghana. Cette application mobile AfroComics, développée par Lady Arts, un studio de jeux vidéo au Ghana, vous donne accès à des contenus africains inspirés des récits et de la culture africaine. Afro Comics est donc une très belle initiative qui m'a immédiatement séduit par sa dimension fédératrice, car beaucoup de créateurs de bandes dessinées, non seulement du Ghana, du Kenya, de l'Éthiopie, du Cameroun, et bien de bien d'autres pays africains, peuvent y déposer leur contenu pour gagner en visibilité. Afro Comics est d'une importance symbolique capitale, parce qu'elle ravive et revitalise l'imaginaire des enfants et des adultes africains. L'application vous offre une escouade de super-héros noirs nés sur le continent appelé Africa Legend. Parce que même si j'adore Black Panther, le super-héros de Marvel, n'oublions pas qu'il vient d'un pays africain imaginaire. À travers Afro Comics, je pense qu'il sera possible d'avoir davantage de T'Challa, de Shuri, de Blade. Bref, que les super-héros africains seront davantage présents dans l'imaginaire et dans l'action. Je crois que le Wakanda est appelé à devenir réalité. Et c'est dans cette vision que s'inscrit Afro Comics. Et je vous invite tous à nous joindre dans cette marche vers l'affranchissement de l'imaginaire de l'Afrique sur l'Afrique en Afrique et par les Africains.
Mondoblog.org.
C'était Christian Elonguet qui nous parlait de BD Made in Africa. Vous pouvez retrouver son billet en intégralité sur son blog Afropolitanis. Et rendez-vous sur mondoblog.org pour retrouver tous nos Mondoblog audio, un site complètement repensé que l'on vous invite à consulter. C'est la fin de cette émission que vous pouvez, je vous le rappelle, écouter en version longue en podcast. Merci à Camille Sarrazin pour Mondoblog audio et à Simon Decreuse qui a assuré la réalisation. La semaine prochaine, nous parlerons des violences faites aux femmes, cyberharcèlement, revenge porn, logiciel espion, ces violences qu'elles subissent ne s'arrêtent pas à la frontière avec le numérique. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.